c'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. La France s'est ressaisie.
Francine a 72 ans. Elle a découvert qu'à la mort de son grand-oncle en 1941, sa collection de tableaux a été vendue de force par le régime de Vichy. Sa famille, parce qu'elle était juive, n'en héritera pas. Avant d'évoquer avec nous où sont ces tableaux aujourd'hui, Francine a souhaité nous raconter l'histoire douloureuse de ses aïeux. Emmanuelle Polak, historienne de l'art, Antoine Delabre et Antoine Tchikpa, généalogiste, aident Francine dans cette quête de mémoire. Quel aurait été le destin de sa famille si elle avait pu hériter des œuvres d'art? L'affaire des 450 tableaux, épisode 2.
Du côté de mon père, une de ses sœurs a été déportée et est revenue. Et ça, j'ai toujours su qu'elle avait été déportée à Bergen-Belsen et qu'elle était revenue. Je l'ai connue. Du côté de maman, c'était une tante et des cousines, mais ça, on n'en parlait pas. Je connaissais juste une cousine de maman, que j'ai connue pendant très longtemps. Elle est décédée en 96. Mais les absentes, non. J'ai appris bien plus tard qu'elle a perdu pratiquement toute sa famille. Et ce qui était frappant, c'était dans les réunions de famille, au sens large du terme, maman était toujours seule, alors que du côté de mon père, il y avait du monde, parce qu'ils étaient cinq, il y avait trois frères, deux sœurs, qui avaient des enfants, etc. Donc les réunions de famille, maman était seule, mais je réalisais pas qu'elle n'aurait pas dû être seule. Qu'elle aurait dû, elle aussi, non pas avoir des frères et sœurs, parce qu'elle n'en avait pas, mais qu'elle aurait dû aussi avoir des cousines, des enfants des cousines, et que c'était une solitude qui la marquait énormément. Moi, pour moi, ben, elle n'avait pas de famille. Donc, ce n'est que bien plus tard que j'ai compris pourquoi elle n'avait pas de famille, juste une cousine.
Elle a perdu qui dans les camps, votre mère?
Alors, elle a perdu une tante, deux des trois filles de cette tante, et chacune de ses filles avait elle-même une petite fille. L'une avait 2 ans, l'autre avait 4 ans. Donc, il ne lui restait qu'une de ses cousines qui n'avait pas été déportée, mais deux l'avaient été, leur mère et les petites. Donc, il y avait un vide complet, quoi.
Et de ces personnes-là, votre mère ne vous en avait pas parlé?
Trop de douleur, trop de tristesse. J'appelle ça ces fantômes. C'est les fantômes qui entouraient maman. Parce que c'est sûrement inacceptable.
Le bloc où nous habitions était en face de l'arrivée du train. Une voie de garage menait le train presque jusqu'à la chambre à gaz. Nous voyions donc les wagons déplombés, les soldats sortir, les hommes, les femmes et les enfants des wagons, et on assistait aux scènes déchirantes, des vieux couples se séparant, des mères étant obligées d'abandonner leur jeune fille, puisqu'elle entrait dans le camp, tandis que les mères et les enfants étaient dirigés vers la chambre à gaz. Tous ces gens-là ignoraient le sort qui leur était réservé. Ils étaient seulement désemparés parce qu'on les séparait les uns des autres, mais ils ignoraient qu'ils allaient à la mort.
Le plus difficile dans l'histoire, c'est que par les généalogistes, bon, disons que j'ai su déporter. Et pour moi, c'était donc Valentine, la tante de maman, la sœur de ma grand-mère, ses deux filles, Denise et Monique, et les petites Dominique et Marie-France. Pour moi, j'avais la notion qu'elles étaient arrivées à Drancy, Auschwitz, le convoi numéro 72, et qu'elles avaient été gazées tout de suite. Et puis jusqu'à ce que le généalogiste et Emmanuel fassent des recherches et que j'apprenne je crois que c'est Monique, qui est morte en octobre 44. Donc elle aurait, hélas, si j'ose dire, survécu 6 mois à Auschwitz.
Alors là, vous avez un livre sur la table, le mémorial des enfants juifs déportés de France. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre ?
Alors, il y a eu une exposition, je ne sais pas il y a combien de temps, à l'Hôtel de Ville, sur les enfants déportés. Donc j'ai été voir cette exposition.
Pourquoi ?
J'ai cherché les photos des petites filles. Donc je les ai trouvées, les photos étaient exposées. Et Serge Larfeld a fait plusieurs livres. Et ça, ce livre-là, c'est une annexe, la Xème, si j'ose dire. Hein. Et je l'ai acheté parce que dedans, il y a les photos de mes cousines. Ce livre, il fait partie du côté de ma bibliothèque que j'appelle mon musée, en quelque sorte. Il y a un petit peu de tout. On voit des photos de Dominique et de Marie-France, donc l'une avec sa maman. Et donc, ça, c'est les... Elles ne sont pas revenues, quoi. Elles sont parties, elles étaient pleines de vie, mais comme tant d'autres. Tous les enfants qui sont dans ces livres, c'est ça.
Donc là, par rapport à votre mère, elles étaient qui ?
Donc là, alors, je vais quand même prendre le temps de lire quel est le prénom de l'adulte qui est là. C'est Denise, qui est donc une cousine germaine de maman. C'est-à-dire que la maman de Denise, Valentine, était la sœur de ma grand-mère, la maman de ma maman, Jeanne. Donc Denise est cousine germaine. L'autre cousine germaine étant Monique. Et les petites filles sont... Donc la fille de Denise était Dominique. Et la fille de Monique était Marie-France. Ce sont les deux petites filles qui sont dans le livre.
Et de ces personnes-là, votre mère ne vous en avait pas parlé ?
Non. Je me rappelle quand même que maman a fait graver le nom de ces personnes sur le caveau d'Orville. Bon, je l'ai su, mais je n'ai pas été très sensibilisée non plus au contexte. Je pense que je ne l'ai pas compris du vivant de maman, parce qu'elle est décédée en 93, et j'aurais pu lui poser toutes les questions que j'avais à lui poser à ce moment-là.
Ça vous suffisait de savoir juste ça, sur votre histoire familiale ?
Oui, je n'ai pas du tout cherché autre chose.
Le 27 juin 1942, la vente aux enchères des 450 tableaux d'Armand d'Orville se termine. Les œuvres ont rapporté plus de 9 millions de francs. Mais comme ils sont juifs, les héritiers d'Armand d'Orville n'en toucheront pas un centime. La somme est confisquée par le commissariat général aux questions juives.
L'argent réalisé par la vente...
Emmanuel Polak, historienne de l'art.
Est confié, et on le voit dans la sous-série AJ38, aux Archives nationales. Elle est confiée à l'administrateur provisoire Amédée Croze, qui va bloquer l'argent sur un compte au nom de la succession Armand d'Orville, mais pour lequel la famille n'a pas accès. À la fin de juin 1942, les fonds sont bloqués en vertu de la loi du 22 juillet 1941.
Amédée Croze, administrateur provisoire par arrêté du 24 juin 1942. Affaire succession Armand d'Orville. Rapport numéro 1. Nice, le 15 juillet 1942. Vente d'un lot tableaux et objets d'art des 24 juin et jours suivants. Cette adjudication a produit 9 051 915 francs. Les ventes constituaient le but idéal fixé par la loi du 22 juillet 1941.
On voit qu'Amédée Croze est donc à la tête de l'administration provisoire de plus d'une dizaine d'entreprises, outre la succession d'Armand d'Orville. C'est une fonction rémunératrice. Il y a un compte spécial, le compte numéro 501 de la Caisse des dépôts et consignations, qui alimente le commissariat général aux questions juives.
Vichy, le 6 avril 1943. Commissariat général aux questions juives, annexe de Nice. Objet succession, Lévy d'Orville. Je vous prie de donner à M. Croze, administrateur provisoire de l'affaire citée en référence, des instructions pour qu'il effectue de suite un prélèvement de 5% sur le montant des réalisations effectuées à ce jour de la dite succession. J'autorise M. Croze à percevoir à titre d'émolument le cinquième de ce prélèvement. Le solde, soit les 4/5 du prélèvement, sera versé à la Caisse des dépôts et consignations, compte 511 à Clermont-Ferrand. Le directeur du service central de l'arianisation économique pour la zone non occupée.
Pour Emmanuel Polak et pour les généalogistes, cette confiscation prouve que la famille d'Armand d'Orville a bien été spoliée.
Bon, les choses sont assez simples.
Antoine Tchikpa, généalogiste.
Le commissariat aux questions juives a procédé à la vente sans le consentement des héritiers. Pour nous, les choses sont très claires. Néanmoins, ce qui est tout à fait vrai, c'est que après la guerre, en 1947, les fonds qui avaient été consignés à la Caisse des dépôts et consignations par le commissariat général aux questions juives ont été restitués aux héritiers. Après, à partir de ce moment-là, peut-on dire s'il y a ou non spoliation ? Je pense que les choses sont assez claires dans notre esprit, et d'ailleurs la généalogie le démontre. En 1947, les héritiers qui perçoivent le fruit de la vente, ce ne sont pas les héritiers directs d'Armand d'Orville, puisque les héritiers directs d'Armand d'Orville sont décédés à Auschwitz. Et donc, de ce fait, on ne peut pas prétexter que la vente a été réalisée et restituée aux héritiers pour dire qu'il n'y a pas spoliation.
Comme on l'a déjà dit, il manque 5 personnes à l'appel. La seule chose que je sais, c'est comment vivaient les personnes de la famille que j'ai pu connaître donc, après la guerre. Bon, étant née en 48, j'ai bien connu ma grand-mère, donc, qui était la sœur d'Armand d'Orville. Je ne peux pas dire qu'elle vivait dans l'opulence. Donc, si elle a touché quelque chose, je ne sais pas ce qu'elle en a fait, mais en tous les cas, elle n'a pas vécu dessus. L'autre personne qui était encore vivante à ce moment-là, c'était le frère d'Armand d'Orville, Charles. Ben Charles, il ne vivait pas du tout dans l'opulence non plus. Donc, il y a peut-être eu de l'argent qui a été versé, je ne sais pas à qui, et en tous les cas, ça ne devait pas représenter, entre guillemets, une fortune, telle que, très certainement, le fruit de la vente en a constitué une.
L'argument fondamental, de notre point de vue, c'est un argument juridique. En 1945, le gouvernement français a publié une ordonnance, l'ordonnance du 21 avril 1945, qui déclare comme nul tous les actes de vente postérieurs à 1941 qui auraient été commis contre les familles juives, avec un raisonnement qui est assez simple, qui est le raisonnement suivant, c'est que ces actes, du fait du régime nazi et du régime de Vichy, ont été commis sous l'empire de la violence, un régime de violence, et c'est pour ça qu'ils sont nuls. C'est notre principal argument.
Le métier de chercheur de provenance est assez extraordinaire pour ça, parce que, compte tenu de l'ordonnance du 21 avril 1945, on a la possibilité de faire casser les ventes dont on pense qu'elles ont été abusives et qu'elles ont été forcées du fait des lois de Vichy. Donc c'est toujours un tournant très important dans ces enquêtes et c'est toujours un moment de grande émotion.
Il y a une relation particulière qui est née entre vous avec cette historienne, Emmanuelle ?
Oui. Oui, parce que je ne dis pas qu'elle connaît mieux ma famille que moi, mais il y a un petit peu de ça. Elle est tellement partie prenante.
Voilà, on a un moment d'enthousiasme partagé où, en fait, le regain, finalement, l'enthousiasme qui ne m'avait jamais quitté réellement, eh bien, est redoublé. Et là, avec une envie de reparcourir les documents avec elle, de lui montrer si elle est demandeuse, eh bien, ce parcours.
Elle veut récupérer ses tableaux. C'est une question, enfin, j'ai l'impression, de réparation d'une injustice. Pour elle, il n'y a pas de raison qu'on ne nous les rende pas. Si la famille avait touché l'argent, Valentine, Denise, Marie-France, Dominique et Monique n'auraient peut-être pas été déportées. Elles seraient parties ailleurs et elles n'auraient pas été déportées. Donc le drame du fait de cette vente spoliatrice, c'est qu'elles ont été déportées, probablement elles ne l'auraient pas été.
Comment vous vivez avec tout ça, là ?
Je pense que ce n'est pas tellement les nuits, c'est le jour. Il est un petit peu plus imprégné par la déportation. Très fortement imprégné par la déportation. Il y a souvent des choses qui évoquent. C'est tout. Donc il n'y a pas que les nuits. Hein. Enfin, les nuits, bon, c'est autre chose. Mais le jour, oui.
Ces heures noires souillent à jamais notre histoire. Oui, la folie criminelle de l'occupant, secondée par des Français, par l'État. La France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leur bourreau.
Il y a trop de personnes à qui j'aurais pu poser les questions. Il y a 20 ans, il y a 25 ans. Et maintenant, je ne peux plus. Que je l'ai toujours dit, moi, maintenant, je me cogne au mur. Je suis complètement embarquée dedans parce que je suis la... Ça fait un peu présomptueux. Je suis la descendante la plus proche, directe, d'Armand d'Orville. C'est mon grand-oncle. Donc, à part mon neveu et ma nièce, mais qui sont descendants, entre guillemets, à l'étage au-dessous, les autres ne sont pas des descendants directs, n'ont pas de lien sanguin, si j'ose dire, avec Armand d'Orville. Donc c'est vrai que j'ai un peu l'impression que bah, c'est à moi de faire. Si je le fais pas, qui le fera ?
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.